France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Nous traverserions un moment hyper critique dans nos sociétés modernes. La critique semble s'être débridée, de même que la parole. Les réseaux sociaux, doublés de l'anonymat, l'extension de l'espace du débat public agrandit l'espace d'expression de la critique. Or, 150 ans après la publication du Capital de Marx, qui prônait la transformation du monde par la pensée critique, la critique moderne semble avoir perdu de sa performativité. Elle semble donc être en crise. Tel est le constat de Fanny Lerdelin, qui pour la critique moderne s'est faite dépasser par le technicisme, l'approche rationnelle des problèmes de nos sociétés, qui a permis à l'ordre capitaliste et néolibéral de s'imposer et d'affaiblir encore justement la critique. Alors qu'est-ce que la critique moderne en tant que mode de pensée? En quoi est-elle en crise? Peut-on vraiment opposer critique et technique? Pour en discuter, une invitée ce soir, Fanny Lerdelin. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes essayiste, vous faites paraître Critique en crise, comment prétendre changer le monde aujourd'hui, un ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir. Et commençons par le début, si vous en êtes d'accord, Fanny Lerdelin. La critique semble partout aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux, à la télévision, on semble fait par la critique, pétri par la critique, et pourtant vous dites qu'elle est en crise. Alors comment lever, selon vous, ce paradoxe apparent ?
Oui, effectivement, on vit un moment hyper critique, hein, vous l'avez très bien décrit. Simplement, il y a critique et critique. Et peut-être que ce que nous vivons, c'est un moment d'émergence de ce qu'on pourrait appeler la basse critique, hein, pour faire écho à ce qu'on a appelé les basses lumières. Alors, basses lumières qui ont été nécessaires, hein, à la Révolution française notamment, parce que voilà, ça concerne la question de la rédaction des libelles, vous savez, des placards qui pouvaient être affichés dans la rue et qui étaient une façon pour le peuple, eh bien, de critiquer de manière un peu grossière le pouvoir. Et ça a contribué effectivement à la Révolution française. Donc, on a besoin aussi de basses critiques. Mais en effet, peut-être prend-elle le pas sur une forme, alors pas plus noble, c'est pas le sujet, mais une forme plus raisonnée de la critique, sachant que la critique est un exercice très particulier et qui est un exercice exigeant. Si on se réfère à Kant, hein, qui a été l'un des voilà des penseurs qui ont formalisé la critique moderne, la critique est une méthode qui est une mise à l'épreuve de l'ordre des choses, une mise à l'épreuve des objets, des phénomènes qui apparaissent au sujet autonome, qui doit se libérer de la tutelle des pensées, alors tutelles qui peuvent être des tutelles religieuses, tutelles familiales, tutelles politiques, pour, par l'exercice de sa raison articulée à l'entendement et à la sensibilité, eh bien, mettre à l'épreuve ces objets et ces phénomènes. Vous voyez que c'est un exercice difficile.
Extrêmement exigeant, et on y reviendra, qui demande aussi beaucoup d'efforts. Mais avant cela, je voudrais qu'on tente de comprendre quels sont les motifs, les raisons qui affaiblissent ou qui dévoient cette haute critique, hein, pour prendre l'inverse de cette basse critique que vous décrivez. Et peut-être commencer par ce discours que l'on entend régulièrement, notamment dans le discours politique, selon lequel il n'y aurait pas d'alternative. Il faudrait suivre le bon sens. Est-ce que déjà ce discours-là empêche, contraint, bride l'esprit critique du temps ?
Absolument. Il n'y a pas d'alternative. Vous savez, c'était la phrase célèbre de Margaret Thatcher, hein, dans les années 80. C'est peut-être l'une des phrases clés du néolibéralisme, du capitalisme néolibéral dans lequel nous vivons depuis maintenant 50 ans. Et effectivement, cette idée selon laquelle, eh bien, l'ordre des choses, la réalité telle qu'elle nous apparaît, ne serait pas justement critiquable. Puisque la critique consiste non seulement à observer le monde, les choses, et à essayer de les interpréter, mais aussi à les contester au nom de ce qui devrait être. Hein. Vous avez cité Marx dans votre introduction tout à l'heure, et effectivement, c'est à Marx que l'on doit, outre la méthode critique donc qui vient de Kant, son projet qu'il a formulé de manière extrêmement ambitieuse dans sa 11e thèse sur Feuerbach, qui est assez célèbre, qui est le point de départ en fait de mon livre, qui stipule que jusqu'à présent, la philosophie critique s'est contentée d'interpréter le monde, et ce qu'il faut maintenant, c'est le changer. Vous voyez qu'il y a un projet qui articule en fait la théorie critique et sa réalisation pratique qui est extrêmement puissant. Projet donc qu'il énonce il y a 150 ans, et la question centrale du livre, c'est que s'est-il passé? Pourquoi, effectivement, la critique n'a-t-elle pas eu la performativité qu'espérait Marx?
Est-ce que c'est la même chose, Fanny Lederlin, ce discours autour du bon sens, au fond, il faudrait prendre telle mesure, mener telle réforme, puisqu'il s'agit de mesures et de réformes de bon sens, alors il faut les suivre, naturellement?
Alors, vous avez vraiment raison d'évoquer ce terme de bon sens. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un terme qu'utilise beaucoup Donald Trump depuis qu'il a été investi, depuis qu'il est président des États-Unis. Bon sens. Au nom du bon sens, effectivement, on ferait passer un certain nombre de réformes, de décisions. Et en fait, parler de bon sens, c'est une manière, eh bien, de masquer le fait que les choses se font au nom d'idéologies qui, elles, sont contestables.
La critique a un autre adversaire, un autre ennemi, c'est la technique. Cette fois, on va prendre un exemple, celui de la géo-ingénierie, grâce à un reportage diffusé dans 28 minutes sur Arte. C'était le 21 août 2023.
Alors que ces épisodes caniculaires devraient se multiplier dans les années à venir selon les prévisions des scientifiques, des ingénieurs planchent désormais sur des solutions technologiques plus poussées. Au Mexique, en Chine ou encore sur ces images aux Émirats Arabes Unis, on cherche à pouvoir activer la pluie sur demande à l'aide de petites fusées envoyées dans le ciel et chargées de cristaux de sel.
C'est fantastique, nous sommes en communication avec les techniciens par radio et dès qu'il y a de la pluie, il y a beaucoup d'excitation, surtout depuis la terre ferme. On les entend nous dire « nous avons de la pluie, de la bonne pluie ». On peut entendre que les gars sont heureux.
La géo-ingénierie, Fanny Lederlin, c'est formidable. On va résoudre les problèmes liés au changement climatique grâce à la technique. Mais en quoi la technique, selon vous, pose-t-elle problème sur notre esprit critique?
Alors, la technique en elle-même ne pose pas vraiment de problème.
Le discours techniciste, pardonnez-moi.
Voilà, ce qui pose un problème, en effet, c'est ça. C'est l'idée selon laquelle la technique ou la technologie, serait un outil au service des gouvernements pour résoudre les problèmes. Et là, il y a plein de difficultés liées à cette vision des choses. La première, c'est que c'est une vision erronée de la politique, qui consiste à confondre l'action et la fabrication. Là, je m'appuie sur une typologie de Hannah Arendt, qui distingue dans Conditions de l'homme moderne le travail, l'action et la fabrication. Je ne vais pas revenir sur le travail, mais la fabrication, c'est un mode d'agir humain qui est instrumental et en vue d'un but. Ce mode d'agir, c'est le mode d'agir des artisans, par exemple. L'action, elle, contrairement à la fabrication, est un mode d'agir qui est ouvert à des finalités multiples et qui est exercé par des hommes et des femmes pluriels au moyen de la délibération et de la délibération collective. Donc vous voyez qu'on est sur deux registres différents. Ça, c'est le premier sujet. Et le danger qu'il y a à confondre fabrication et action, eh bien, c'est celui qui consiste à finalement banaliser une forme d'interventionnisme autoritaire au nom de l'efficacité opérationnelle. Et c'est exactement ce que décrit votre reportage, c'est-à-dire que faire pleuvoir sur un territoire parce qu'il serait trop sec, eh bien, on va... En gros, la fin justifie les moyens. Mais la fin justifie les moyens, c'est un principe qui, politiquement, est extrêmement dangereux, qui recèle, en fait, des écueils éthiques fondamentaux sur lesquels je reviens notamment dans le livre avec l'aide d'Hannah Arendt, toujours elle.
Toujours elle, on y reviendra puisqu'on l'entendra peut-être tout à l'heure, vous verrez. Il y a autre chose qui me frappe et c'est peut-être un point de vue plus personnel, on a le sentiment aussi que le monde est divisé en deux et c'est peut-être pour cette raison que la critique n'a pas bonne presse. Il y aurait d'un côté ceux qui critiquent et de l'autre ceux qui font, comme si le fait de critiquer retirait du monde de l'action et comme si ceux qui critiquaient ne faisaient pas dans le même temps. Alors ne pas faire, c'est ne pas faire avancer le monde, ne pas faire progresser les choses, mais comme si la critique nous projetait à distance du monde et des choses et de notre capacité à le transformer.
Oui, alors ça c'est un argument rhétorique des gouvernants qui ne souhaitent pas être critiqués. Mais peut-être y a-t-il là-dedans quelque chose qui...
Ou des artistes qui vont nous dire « mais vous avez qu'à créer
oui,
par
faites,
vous-même hein. ».
Faites et
nous verrons
c'est
bien.
C'est la critique. Mais justement, la critique telle que Marx l'a conçue notamment, et en fait c'était déjà présent dans le projet kantien, articule justement réflexion théorique et pratique, et efficacité pratique, et engagement pratique, en fait, hein, et politique. Et peut-être cette opposition tient-elle aussi au fait que la critique est aussi une attitude. Et une attitude qui a notamment été décrite par Michel Foucault dans les années 70, dans une célèbre conférence qui s'appelle « Qu'est-ce que la critique ?», dans laquelle il déclare que la critique consiste à ne pas vouloir être tellement gouverné. Pas comme ça. pas par cela. Et vous voyez qu'il y a une dimension très subversive dans cette attitude, et il le résume aussi par le concept d'inservitude volontaire, qui est un concept très intéressant. Et donc, on comprend bien ce qui peut gêner les gouvernants dans cette attitude critique.
Dernier motif que je voudrais évoquer avec vous, hein, Fanny Lédorlin, un motif qui affaiblit cette haute critique que vous décrivez dans cet ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires de France, intitulé « Critique en crise », c'est la pensée positive. Cette pensée positive, il faut d'abord définir, nous faire comprendre de quoi il s'agit, et surtout, comment elle vient affaiblir, dévoyer l'esprit critique qui nous traverse tous.
Oui, alors la pensée positive, c'est un concept qui vient de Herbert Marcuse, hein, qui est un théoricien critique issu de la deuxième génération de l'école de Francfort. Et eh bien, ce qu'il explique, c'est que le monde tel qu'il nous apparaît, en fait, est recouvert alors d'une forme d'idéologie, c'est-à-dire d'idées selon laquelle, eh bien, il n'y a que de la positivité qui apparaît. Et finalement, la façon dont les discours sont construits, la façon dont les choses nous sont présentées, ne permettent pas que s'exerce une forme de négativité qui permettrait de les contester.
Donnez-nous un exemple concret. Alors, par exemple, si on devait se projeter dans un monde où la pensée positive nous avait empli ou immergé.
Il n'y a pas besoin de se projeter, hein, c'est notre monde. Je ne sais pas, quand vous prenez le métro, d'abord, vous êtes en général, vous mettez des écouteurs, vous écoutez de la musique sympathique qui vous permet de passer un bon moment et d'oublier que vous êtes sous terre. Et puis, vous regardez des affiches publicitaires qui vous promettent des applications qui vont rendre plus opérationnelle votre vie quotidienne et qui vous empêchent de penser à ce qu'est la réalité de ce monde, qui est un monde injuste, qui est un monde proche de la catastrophe écologique, qui est, je ne vais pas énumérer les difficultés que rencontre le monde aujourd'hui. Mais donc, tout est fait pour nous faire oublier l'irrationalité de ce monde dans lequel nous vivons.
Est-ce que l'on peut définir aussi la critique, et c'est peut-être ce qu'on se dit en vous écoutant, comme une résistance à ce qui est et au nom de ce qui devrait être ?
Exactement. La critique, c'est effectivement une pensée contre, mais tout contre. Une pensée contre, car il s'agit effectivement de contester l'ordre des choses au nom d'un ordre plus juste que l'on souhaiterait contribuer à faire advenir, mais c'est une pensée qui doit être en mouvement, et c'est une pensée qui doit quand même tenir compte de la réalité et d'une certaine manière y adhérer, y appartenir. Donc contre, mais tout contre. Il y a aussi une dimension affective pour l'ordre du monde, pour la réalité qui est très important pour ne pas tomber dans une forme d'ivresse idéaliste ou d'ivresse moralisante qui constitue deux impasses internes à la critique moderne.
J'aimerais que l'on écoute celle que vous avez déjà citée à plusieurs reprises. Je veux parler d'Anna Arendt, la philosophe se livrait en 1974, un an avant sa mort, dans un grand entretien à New York pour l'ORTF.
Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux.
Ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
C'est magnifique cette fin en français, Fanny Lédorlin. Je voudrais qu'on revienne sur deux idées qui viennent d'être exprimées par Anna Arendt. La première, penser c'est dangereux, bien sûr que c'est dangereux, mais ne pas penser c'est encore plus dangereux. Expliquez-nous ça.
Penser, c'est dangereux parce que, et Anna Arendt a tout au long de son œuvre travaillé cette question, penser peut amener à un certain nombre d'écueils. Donc je parlais tout à l'heure de l'ivresse de l'idéalisme, hein, qui est cette tentation liée à la raison cannibale, elle utilise ce terme dans l'un de ses textes, la raison cannibale qui peut nous amener à réfléchir, à spéculer, sans tenir compte justement de la réalité des choses, en oubliant l'entendement, en oubliant la sensibilité et en se passant en quelque sorte des phénomènes de la vie. Donc penser d'une façon mortifère finalement. Il y a un deuxième écueil qui est celui de la pétrification idéologique. Pour Hannah Arendt, elle sépare idéo et logique avec un trait d'union. L'idéologie, c'est le fait de se remettre à la logique des idées. Et ça aussi, c'est très dangereux parce qu'en fait, ça nous entraîne sur une forme de dogmatisme. Donc, et puis, il y a encore un autre danger qu'elle évalue aussi très bien, qui est celui du désir de mettre en ordre moralement le monde. C'est-à-dire vouloir évacuer du monde le mal, le malheur, voilà, tout ce qui est négatif, justement, toute la négativité du monde. Et là aussi, ça peut, eh bien, faire sombrer vers des formes de terreur, de terrorisme, etc. Donc, vous voyez que penser est dangereux. Mais ce qu'elle préconise, avec bien d'autres sur lesquels je m'appuie aussi dans le livre, eh bien, c'est de ne jamais arrêter le mouvement de la pensée. Si la pensée reste dialectique, si la pensée continue d'être en mouvement et se met à penser contre elle-même, et c'est ça penser en fait, c'est penser y compris contre soi-même, alors elle garde quelque chose qui est de l'ordre d'une vitalité et d'une vivacité qui, elle, peut être tout à fait nécessaire justement pour contribuer à améliorer le monde.
Par conséquent, et d'un point de vue méthodologique, que veut-elle dire Hannah Arendt lorsqu'elle explique qu'il faut passer le monde à l'examen critique? Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, méthodologiquement, que passer le monde à l'examen critique?
Je crois que ça ne veut pas dire autre chose que ce que je vous racontais tout à l'heure sur Kant. Et d'ailleurs, Hannah Arendt est une grande lectrice de Kant. Elle l'a lu à 13 ans, elle était très précoce. Et elle s'est beaucoup intéressée, notamment à sa troisième critique, la critique de la faculté de juger, qu'elle a transposée du domaine de l'esthétique au domaine de la politique pour penser justement ce qu'était la faculté de juger, qui est pour elle la grande faculté politique. Donc elle ne dit pas autre chose que simplement cette idée de mise à l'épreuve des choses par la pensée autonome, libérée des tutelles, et y compris des tutelles internes à la critique elle-même.
Que penser de la critique adressée, cette fois à la critique et à celles et ceux qui passent leur temps, j'utilise cette expression à dessein, à critiquer, au fond que la catastrophe est là, que le monde est gris et triste, que nous sommes entrés dans une période absolument désastreuse, que le pessimisme nous a empli chacune et chacun, et dans le fond, la critique n'aurait servi à rien, elle n'aurait pas réussi à changer le monde selon nos désirs. Alors comment, que répondre à ce discours-là, à ce type de discours ?
Sans me placer du côté du pessimisme ou de l'optimisme, pour moi c'est pas vraiment la question, mais la catastrophe en effet est là. Moi il y a une citation que j'aime beaucoup de Walter Benjamin qui dit que les choses continuent à aller ainsi, voilà la catastrophe, ce n'est pas ce qui va advenir, mais l'état de choses donné à chaque instant. Donc on peut se dire, bon ok c'est terrible, une fois qu'on a dit ça, voilà qu'est-ce qu'on fait ? Moi je pense au contraire que c'est une chance. C'est-à-dire que nous sommes dans la crise. Et peut-être la critique serait-elle moins en crise si elle cessait de vouloir la résoudre, cette crise, si elle cessait de vouloir la surplomber et la dépasser. Et c'est ça que j'essaie d'explorer avec l'idée d'une critique interstitielle, c'est l'idée qu'il faut rester dans la crise, rester dans l'ordre des choses tel qu'il est. Nous vivons en effet dans un monde abîmé, dans un monde peut-être incurable, et c'est à l'intérieur de ce monde qu'il faut quand même tenter de créer des interstices, des espaces de liberté, des espaces de viabilité, des espaces de justice qui sont comme autant de petites républiques de résistance à l'ordre des choses qui nous est donné.
Mais alors si l'enjeu de la critique n'est pas de résoudre la crise, quel est-il à part la liste ambitieuse que vous venez de formuler, que faut-il proposer hein ? Moi, je pensais en vous écoutant justement que la critique avait vocation à proposer un monde meilleur.
Oui, c'est mon point de départ, mais c'est vrai qu'au bout de 450 pages, j'ai beaucoup avancé et donc beaucoup pensé contre moi-même aussi. Et j'en suis arrivée, mais je ne m'arrêterai certainement pas là, sinon ce serait dogmatique, à l'idée que peut-être aujourd'hui, la meilleure chose que nous avons à faire, c'est plutôt de pratiquer une forme de soin pour le monde, c'est-à-dire de se dire que nous lui appartenons plus qu'il ne nous appartient déjà, et d'essayer eh bien, de le maintenir, mais de le maintenir au sens propre du terme, c'est-à-dire comme on parle de maintenance ou de soin des choses, c'est-à-dire qu'il s'agit d'y prêter attention et de lui poser un geste voilà, attentionné, scrupuleux, soigneux. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique de bricoleur ou de chiffonnier, et on est loin du geste de Marx.
La voix, Fanny Lederlin, de Gérald Bronner, professeur de sociologie à Sorbonne Université. Il s'exprimait dans la conversation scientifique sur France Culture, c'était le 4 janvier 2020.
L'impression de savoir, c'est ce qui va justement baisser votre vigilance épistémique. Si vous pensez savoir, vous n'allez pas investir du temps de cerveau en quelque sorte, mais c'est la grande ruse de la croyance, c'est de se faire passer pour de la connaissance. Alors que quand on sait qu'on ignore quelque chose, alors soit on est indifférent au sujet, ou alors on fait un travail d'appréhension de la connaissance. Mais si on croit déjà savoir, on n'est pas capable de produire cet effort. Et là encore, la notion d'effort, c'est pour ça que j'aimais bien le terme de somnolence chez Alain. Il disait, c'est dire non. Non, c'est tout à coup se redresser. On sent bien que ça va nous coûter de l'énergie. Mais c'est pas du tout seulement une métaphore. Ça coûte vraiment de l'énergie au cerveau. Et on sait que l'activation du cortex préfrontal, par exemple, qui va arbitrer entre plusieurs possibles, ce sont des activités intellectuelles qui sont très énergivores. Donc c'est normal que le cerveau, qui gère son énergie comme un bon père de famille, n'accepte pas de produire des efforts tout le temps. Il préfère s'abandonner à des routines mentales, et heureusement d'ailleurs, parce que si nous étions toujours en état de pensée critique, en état de pensée méthodique, l'humanité aurait tout simplement disparu depuis longtemps.
Comment est-ce qu'on sort alors, Fanny Lederlin, de cette routine mentale décrite par Gérald Bronner? Comment est-ce qu'on entre dans cet effort de la critique?
Oui, alors d'abord, il a raison de rappeler que c'est important de savoir aussi se laisser aller à la routine mentale. On ne pourrait pas vivre correctement en exerçant constamment sa faculté critique. C'est exigeant du point de vue existentiel.
Mais il dit aussi et surtout qu'elle ne peut pas être perpétuelle.
Voilà, elle ne peut pas être perpétuelle. Mais ce qu'il pointe là dans le son que vous venez de passer, c'est finalement le grand danger que représente la certitude. C'est ce que j'évoquais aussi un petit peu tout à l'heure avec la pétrification dogmatique ou des éléments comme ça. Et donc, ce qui me paraît intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il est très important que la pensée s'ouvre à la contingence des choses, au fait qu'il n'y a pas de nécessité dans l'ordre du monde, et donc à une forme d'incertitude. Et ça aussi, c'est douloureux du point de vue existentiel. S'ouvrir à l'idée que effectivement, il n'y a pas de téléologie dans l'histoire, qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, que nous n'allons pas vers un progrès nécessaire, pas plus d'ailleurs que vers une catastrophe nécessaire, que rien n'est écrit, et que finalement, tout ce qu'on peut dire de ce qui nous est donné, de notre contexte, c'est qu'il est incertain et qu'il les contingents, eh bien c'est difficile de vivre avec cela, et c'est avec cela qu'il faut penser.
C'est ce que vous voulez dire, c'est tout cela que vous voulez dire à la fois lorsque vous écrivez qu'il faut renouer avec la négativité, c'est-à-dire avec le fait que le progrès n'est pas immuable et le fait que ce monde-là est peut-être triste et tragique à la fois ?
Oui, tragique me plaît plus que triste, mais effectivement, renouer avec la négativité, et y compris avec ce qu'elle suppose du point de vue existentiel, qui est une forme de frustration, en fait. Sans doute, les écueils internes attachés à la critique sont-ils liés à la recherche d'une forme de satisfaction intellectuelle. Penser constamment en mouvement et avec l'idée que il faut vivre avec l'incertitude et avec la contingence, c'est insatisfaisant, et c'est donc douloureux. Mais effectivement, c'est à cela qu'il faut s'ouvrir pour continuer de penser de façon critique.
Et dans le même temps, si l'on, malgré l'inefficacité intrinsèque à la critique, on l'a bien compris, est-ce qu'il est possible, selon vous, de construire ou de tendre vers une activité critique capable de faire advenir ce qui devrait être? On revient justement à cette définition de la critique, hein, faire advenir ce qui devrait être et regretter ce qui est tel qu'il est.
Oui, alors c'est là où ma proposition est extrêmement modeste, hein, mais il s'agit quand même de continuer d'articuler la pensée critique à une forme de pratique, mais une pratique, encore une fois, qui tient plus du soin et de pratiques ordinaires, un petit peu, comme on peut parler de pratiques ordinaires en éthique du care aujourd'hui, pour ceux de vos auditeurs qui s'intéressent à ces sujets. Il s'agit d'une certaine manière, d'inventer le quotidien, alors encore une fois, de façon très modeste, de façon très, alors quand même collective, hein, mais en cherchant à se créer de façon sous-jacente des espaces de liberté, des espaces de subversion, des espaces d'attention aussi portés aux choses, aussi bien qu'aux êtres vivants. J'ai appelé ça dans un précédent livre le bricolage. Le bricolage est une voie possible pour exercer cette forme voilà, de praxis critique très modeste et interstitielle. Il en existe certainement d'autres.
En quelques mots, la critique pousse à cela dans le fond, et contrairement à ce que l'on pourrait croire parfois, à la modestie, à l'humilité.
Ah oui, j'en suis convaincue.
Merci beaucoup Fanny Lederlin. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Critique en crise, c'est un livre passionnant, hein, comment prétendre changer le monde aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu ce soir à Question du Soir.